Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Toutes nos excuses pour ce petit contretemps dû notamment à l'abondance de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 20 mars 2015. Bienvenue à ce forum de la presse. Un forum de la presse qui va donc plancher sur trois sujets, trois thèmes. Un premier thème qui sera consacré au préaccord d'Alger signé entre le gouvernement malien et les membres de la plateforme. Nous parlerons également de la journée de vaccination, la campagne nationale de vaccination qui a été lancée par le président Ibrahim Boubacar Keïta hier, et un mot justement de sport avec l'arrivée du nouvel entraîneur Alain Gires. Je suis avec deux invités, Awasimega de kunanfoni.com et Yuba Konate de Zenith Ballet. Merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Petit Ndiara est à la mise en onde. Après la rencontre avec la médiation et la, entre la médiation et la coordination des mouvements armés de l'Azawad, qui a donc l'État, le gouvernement malien a donc exclu toute éventualité de retouche du préaccord d'Alger signé entre ce dernier et les groupes armés de la plateforme. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir cette position hier. Choguel Kokalamaïga est au micro de Imran Akilumaïga.
Le gouvernement a paraphé cet accord en toute responsabilité, en toute bonne foi, malgré la non-prise en compte de son mémorandum de 12 pages d'amendements remis aux membres de la médiation, car il est pleinement engagé dans la recherche de compromis dynamiques pour le retour de la paix. Le gouvernement est allé vers des compromis dynamiques, sinon il avait aussi des réserves sur le document produit par la médiation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de blocage. Nous sommes à une étape que nous pensons pouvoir franchir avec l'appui de tous les Maliens, de toute la communauté internationale et la compréhension de nos frères qui sont dans les mouvements armés. Dans quelques jours, sinon aujourd'hui, nous prendrons des initiatives d'envergure au niveau national pour montrer que le peuple malien, dans la totalité de ses composantes, aujourd'hui adhère à cet accord.
Alors, le gouvernement malien entre deux feux, Yuba Konate de Zenith Ballet. De l'autre côté, il y a la coordination, la médiation et les populations. Comprenez-vous cette fois-ci ce durcissement de ton de Bamako?
Merci, Famoussa, de me permettre une fois de plus de donner mon avis par rapport à l'actualité de la semaine dans notre pays qui se focalise fondamentalement sur le préaccord d'Alger. Et vous l'avez dit dans votre introduction, hein, vous avez dit que le gouvernement est pris entre deux feux. Moi, je dirais plutôt que le gouvernement est piégé. Le gouvernement malien est en train d'être piégé.
Qui l'a piégé?
Lui-même, certainement. Puisque qu'est-ce qui se passe? Voilà un accord, et le ministre, porte-parole du gouvernement, dans son intervention, tout de suite, l'a dit. Le gouvernement a fait un amendement, des amendements de 12 pages. C'est-à-dire qu'à la dernière reprise des rounds, c'est ce que le gouvernement malien avait apporté. Mais même une virgule n'a pas été ajoutée. Donc, tout ce que le gouvernement malien a apporté
n'a été accepté par la médiation.
Donc, ça veut dire que le gouvernement malien a signé, a paraphé un document sur lequel il avait énormément de doutes. Et on le comprend. Chaque fois qu'il y a un ministre qui sort pour défendre le gouvernement, défendre le paraf, on le comprend. Puisque déjà, ils sont partis avec une idée fondamentale qui était cher au gouvernement et qui était, comment dirais-je, un concept du président de la République, le concept de la ligne rouge. Et dès le départ, nous avons dit que c'était une erreur de penser comme ça, parce que c'est assez réducteur de ce qui est en jeu. De penser que le refus seulement, que dès lors que la ligne rouge n'est pas franchie, tout est permis, c'est une erreur. Et c'est à ces pièges-là que ce gouvernement a été pris.
Ça a donné l'argument à la médiation de refuser donc ces...
Voilà, d'autant plus que la ligne rouge n'est pas franchie. Vraiment, vous pouvez vous contenter de ce qu'on vous offre. Et là, le piège, c'est quoi? Ils ont pris ce qu'on les a offert. Et de l'autre côté, la CMA monte les enchères et dit non. C'est-à-dire que tout le débat est encore bouleversé. Aujourd'hui, la préoccupation de l'ensemble des acteurs de cette histoire-là, c'est quoi? Que la CMA paraffe. Mais ça ne devrait pas être une. La préoccupation ne devrait pas être que la CMA paraffe. Puisque, de bout en bout, la préoccupation c'était comment mettre en place maintenant les mécanismes pour faire fonctionner l'accord. C'est-à-dire qu'au-delà de la signature protocolaire qui est prévue à Bamako, mais la préoccupation aujourd'hui ne devrait pas être qu'on trouve les moyens pour que la CMA paraffe. Non. Et la CMA est très intelligente. Elle est en train carrément de tourner le débat. Tout le monde aujourd'hui se bat pour que pour obtenir le paraffe de la CMA. Mais ce n'est pas normal. Puisque de bout en bout, ils ont participé à tout le processus. Et c'est à la dernière minute que la CMA dit non. Nous, on va consulter notre base. Il faut qu'on soit sérieux. Et si le gouvernement malien qui a apporté plus de 12... Moi, je ne suis même pas un fervent défenseur de cet accord. Mais déjà, sur le fond, moi, j'ai énormément de réserves, comme presque tous les Maliens. Mmh. Mais dans la forme, déjà, il y a un problème. Donc, on se focalise aujourd'hui sur la signature, sur le paraffe de la CMA, comme si ça, c'était une fin en soi. Alors que ça ne devrait pas être ça, parce que ils ont participé à tous les processus. Et si le gouvernement malien, de son côté, devait demander l'avis du peuple malien avant de signer tous les autres acteurs de CD. Parce que, je vais vous dire, comme ça, qu'est-ce qui se passe? À la signature, déjà, à la signature du pré-accord, à Alger, déjà, pour se sortir des griffes, de la pression qui était dans la salle, les responsables de la CMA ont dit, aux acteurs, aux responsables de la médiation, que de leur donner 2 à 3 jours le temps pour eux d'aller consulter leur base. Mais dès lors qu'ils sont sortis de la salle, Ak-Sherif a dit qu'ils ne peuvent pas paraffer un tel document.
Donc c'était une excuse.
Qu'ils ne peuvent pas paraffer un tel document. Entre-temps, Moussa Ag est revenu à la charge pour dire qu'un tel document... Voilà, pour fustiger le document. C'est 3-4 jours après...
Donc la base n'était qu'un...
Voilà, un prétexte. Puisque les deux responsables, Moussa Ag et tous les responsables de la CMA, déjà à Alger, ont fait des déclarations pour dire que ils vont pas paraffer ces documents. Et ils trouvent le prétexte 3-4 jours après pour dire que non, c'est la base. Quelle base?
Alors, nous allons permettre à Awa de réagir par rapport à ce communiqué du gouvernement du Mali. Yuba l'a dit tout à l'heure, l'opposition politique malienne est pratiquement dans la même position. Elle émet donc des réserves par rapport à cet accord, car la CMA n'a pas adhéré, n'a pas paraffé encore une fois ce document. Awa, quelle est votre vision de ce communiqué du gouvernement?
Je crois que le gouvernement a parfaitement raison en disant qu'ils ne vont pas revenir à des négociations et tout, parce que tout le processus a été fait pendant sur de longs mois. Tout le monde a participé à l'élaboration de ce projet d'accord, et pour voir finalement que la CMA vient dire que... Bon, c'est pas étonnant, moi ça ne m'étonne pas du tout, parce que on devait s'attendre à ce... une fois encore, c'est une manière pour eux de se faire voir, de se faire remarquer,
d'attirer l'attention
sur eux. Sinon, c'est un document qui, moi, très sincèrement, je dis, c'est beaucoup plus avantageux pour les mouvements armés, même que pour l'État du Mali.
Oui, tout à fait, oui. Parce que nous l'avons dit, on a pris à notre propre piège la ligne rouge, c'est ce qui nous amène dans ça.
Alors, la médiation, de son côté, estime que les observations la coordination a apportées lors de sa rencontre avec la coordination à Kidal sont des observations qui peuvent être prises en compte. Nous écoutons Pierre Bouyouya qui l'a dit au micro de Issa Fakaba Sissoko.
De notre côté, la médiation, nous leur avons dit que la négociation est terminée. Nous attendons qu'ils fassent un pas. Nous, jusque-là, nous ne considérons pas qu'ils ont refusé la signature complètement.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'échec de la médiation internationale?
Non. Avec la conclusion des dossiers de ce genre est toujours difficile. Aujourd'hui, nous restons encore en contact avec ces mouvements. Nous essayons de les convaincre. Nous avons suggéré une porte de sortie. Alors, nous attendons leur réaction. Nous n'osons pas encore parler d'échec. Bien sûr, après un certain temps, on va tirer conclusion, mais on n'y est pas encore.
Quelle est la date prévue pour la signature définitive de l'accord?
Cette date n'est pas encore fixée. On a dit, dans le meilleur des cas, avant la fin du mois de mars.
Alors, Awa Simeka de kunafuni.com, est-ce qu'on peut dire que la médiation marche sur des œufs?
Elle se fait marcher sur des œufs parce que je pense que c'est à elle maintenant de s'imposer et de vraiment jouer le bon arbitre dans cette situation-là. Parce que le MNLA, je dis le MNLA parce que ce sont eux les plus... Voilà. Donc la CEMA est en train de jouer à un jeu juste, je pense, pour attirer l'attention sur elle. Si elle refuse de signer l'accord, là, c'est uniquement parce qu'on ne parle pas d'indépendance, on ne parle pas du fédéralisme. Eux, c'est ça qu'ils veulent. Donc s'ils veulent la paix, réellement, s'ils cherchent la paix pour ce pays-là, je pense qu'il n'y a pas de raison pour eux de ne pas paraffer le document. Parce que déjà, ils ont la liberté de choisir un nom pour leur région et tout. Donc, je pense que tout ça, ils peuvent changer le nom de Kidal au nom qu'ils veulent, en Azawad ou n'importe où. Tout ça, ça fait partie du projet. D'accord. Donc, je crois que là, c'est...
Alors, Yuba, la CEMA estime que ces observations doivent être prises en compte. Il y a la médiation également qui est sur une position similaire. Elle estime que certaines observations de la CEMA doivent être prises en compte. Alors, nous avons demandé à un représentant du MNLA quelles étaient justement ces observations. Parmi ces réflexions, il nous est apparu que ils veulent aujourd'hui qu'on leur donne l'étendue de cette zone Azawad. Est-ce que vous pensez que la médiation peut fléchir sur cette question de délimitation de l'Azawad?
Oui, c'est l'une des propositions de mouvement armé, c'est ça justement, qu'on reconnaisse une reconnaissance, comment dirais-je, juridique d'un espace géographique qui dénomme. Mais tout le problème, c'est ça justement. Il y a un problème de légitimité déjà, qui depuis à l'origine pose problème. Puisque les gens de la CMA peuvent demander, ou du moins peuvent avoir la prétention de demander de l'autonomie pour Kidal. Mais Kidal n'est pas une entité fiable. Tout le problème, c'est ça. Donc, pour noyer le poisson, on dit les régions de l'Azawad, donc Gao et Tombouctou y compris.
Mais, jusqu'à Douanza.
Jusqu'à Douanza. Mais ça ne passe pas. Sur quoi ils se fondent pour dire qu'ils demandent l'indépendance, l'autonomie, ou du moins c'est une reconnaissance juridique pour Gao et Tombouctou? Les gens de Gao et Tombouctou ne se reconnaissent pas du tout dans ce qu'ils font.
Même Kidal. D'autant imaginez, plus que c'est une minorité qui le représente.
Je vais vous dire quelque chose. Pendant toutes ces concertations, Famoussa, est-ce que vous êtes sûr que dans toutes ces concertations qui se sont tenues à Kidal, qu'il y avait une voix, une seule voix, qui disait que non, pourtant on peut voir, c'est-à-dire qu'il y a une voix qui était contraire à ce qui donnait la CMA. Moi, je ne pense pas. Pourtant, ils ne vont pas nous dire que dans toute la région de Kidal, il n'y a pas un seul partisan du Mali. Donc, ça veut dire quoi? Vraiment, il faut qu'on soit sérieux, il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Moi, je me souviens que...
Quelles peuvent être ses responsabilités à la communauté internationale?
Celle qui le sait, puisque 3-4 mois avant l'épilogue même des négociations, c'est elle qui avait mis tout le monde, toutes les parties, comment dirais-je, en garde, que ceux qui vont bloquer, toutes les parties qui vont bloquer l'accord ou le processus, va être sanctionné. 4 à 5 mois avant. L'épilogue des négociations, c'est la communauté internationale qui a... Donc, ça aide de passer à l'action. Puisque il est inconcevable de penser aujourd'hui qu'on peut ajouter
des
amendements. Si on peut ajouter des amendements, qui toutes les parties fassent des amendements.
Comme l'État Mali.
Si la communauté internationale, à travers... Je viens d'écouter Pierre Bouya qui dit que certaines considérations peuvent être prises en compte. Autant, nous aussi, on va faire des amendements.
Nous allons observer une seconde de pause avant la réaction de la CEMA.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le forum de la presse est consacré aujourd'hui à 3 actualités. Les actualités donc autour du préaccord d'Alger signé entre le gouvernement malien et les groupes armés de la plateforme. Je vous rappelle que la signature, le paraf donc de la coordination se fait toujours attendre et nous allons donc justement parler de ce désaccord entre la CEMA et les autres parties, les autres entités donc dans cette cette négociation. Alors, la troisième partie donc sera consacrée à la vaccination, à la campagne nationale de vaccination et au sport. Mais avant, cette réaction de la CEMA dans cette restitution, il y a un peu, la CEMA demande à restituer donc le contenu du préaccord à sa base. Donc, les vrais protagonistes de ce conflit ne sont pas est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, Yuba, à savoir si les vrais protagonistes de ce conflit, est-ce que c'est les responsables du MNLA, est-ce que c'est les responsables du MAA, je parle là des groupes armés de la coordination. Est-ce que ceux qui négocient avec la médiation, ce sont les vrais responsables, les vrais tenants du jeu sur le terrain?
Ah oui, c'est sûr, c'est évident que ce sont les vrais. Mais ils jouent au dilatoire. C'est aussi simple que ça. Ils jouent au dilatoire. Et il y a un problème. Il va falloir vraiment que les Maliens. Et moi, je ne pense pas que cette responsabilité incombe seulement aux dirigeants, aux autorités. Il va falloir que les Maliens, de façon d'aller ensemble, reprennent l'initiative. C'est-à-dire que quand vous le dites comme ça, les gens pensent que vous êtes violent. Moi, je pense que cette guerre-là, on est en train de la repousser, mais on va la faire. C'est une question de rapport de force. Et les gens de la CEMA ont en tête la victoire qu'ils ont eue sur l'armée malienne lors de la visite de l'ex-premier ministre Mara. Ils ont ça en tête. Et ils pensent que désormais, ils ont les moyens de faire la guerre. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Après tout l'engagement que les uns et les autres ont pris, tout l'accompagnement de la communauté internationale, que ces gens-là soient aujourd'hui, qu'on en soit aujourd'hui au point de supplier la CEMA de paraffer un document auquel ils ont participé pendant plus de 7-6 mois à Alger. Donc, nous, c'est aux Maliens de prendre les responsabilités. Et de penser que cette guerre-là, on est en train de la repousser, mais on va la faire.
Alors, juste après donc le communiqué du gouvernement qui ne désire plus qu'on touche au préaccord d'Alger qu'il a déjà signé, je vous propose d'écouter la réaction de la coordination avec Ataï Ag Mohamed que nous avons joint hier au téléphone.
Ce qu'il y a, c'est que le document qui a été proposé par la médiation internationale n'est pas un document parfait en soi. Donc, il porte encore des lacunes, et ces lacunes ont été exprimées par toutes les parties, mais aussi par les observateurs indépendants. Donc, pour nous, ce n'est pas un blocage, ce sont encore des discussions qui continuent. Et dans les communiqués de l'aménagement, vous observerez que l'aménagement dit bien que ce n'est qu'un document qui donne le sens dans lequel on va vers la paix. Ce n'est pas un document final, ce n'est pas un accord global de paix. Donc pour nous, ce n'est pas un blocage et nous espérons que les différentes parties vont encore reprendre les discussions afin de se mettre d'accord sur un vrai accord qui d'abord consolide les parties en belligérance, parce que c'est ce qui est important, ce qui ne servira à rien, et mettre en place un papier sans au préalable être sûr que les parties sont conciliées et sont d'accord à s'engager dans un travail mutuel et sincère pour aller vers la paix.
Alors, le gouvernement malien exclut toute retouche de ce document. La communauté internationale semble être sur la même voie. Quel est l'avis de la CEMA?
Écoutez, je ne sais pas si la communauté internationale et le gouvernement du Mali sont sur la même voie, parce qu'il y a quelques jours, nous avons reçu une fois délégation de la communauté internationale à Kidal, et nous lui avons exprimé tout ce qui passe à la population sur ce document. Nous avons proposer des amendements à une partie et elle-même elle a pu garantir de transmettre acquis des droits et de faire en sorte que d'autres rencontres soient organisées dans l'avenir afin que l'on puisse voir ce qu'il y a lié d'un milieu d'un document. Donc c'est hier soir seulement qu'on a vu un communiqué du gouvernement dans lequel celui-ci.
Alors à une réaction par rapport à cette déclaration de la CEMA?
Oui, je crois qu'ils sont en train de jouer avec les gens, quoi. Parce que là, ils parlent de revenir à la table des négociations. Alors que quand ils étaient tous à Alger, tout le monde était sur la table des négociations. Chacun a donné son point de vue. C'est clair qu'un document ne pourra jamais être à 100% satisfaire tout le monde à 100%. Donc ça, c'est pas possible. Donc chacun a fait des concessions. Et il semblait, quand ils sont sortis de la salle, qu'ils étaient, eux, ils étaient d'accord pour le pour paraffer le document. Il suffisait juste qu'ils fassent le compte rendu à leur soi-disant base.
Maintenant, pour donc vous venir, ne croyez pas à cette option de base?
Je ne crois pas du tout. Pas du tout.
Alors, Yuba, la coordination estime que ce document n'a pas de valeur juridique, donc le paraphe n'est pas important. Une réaction par rapport à ça?
Le paraphe n'est pas important, comment ça? Moi, je comprends.
La coordination estime que ce document n'a pas de valeur juridique.
Non, ça n'engage que la coordination. Moi, je pense que la valeur juridique du document, d'un tel document, va être... c'est sur quoi les différentes parties s'engagent. Ça ne peut pas avoir plus de valeur que ça. C'est l'engagement des parties qui sont en conflit. Moi, je pense que ça a une valeur juridique. Et ne serait-ce que l'engagement des différentes parties... Et avec l'arbitrage, l'accompagnement de la communauté internationale, ça, il y a une valeur juridique. Maintenant, il y a un truc qu'il faut clarifier. C'est-à-dire que les propositions que la CMA fait, c'est pour nous amener à la case de départ. Si vous me permettez. C'est-à-dire, l'Assemblée interrégionale, sursoir à l'organisation des élections, prévoir la... Non, c'est... 80% des forces armées de sécurité de la zone sont de l'Azawad. C'est nous ramener au point de départ. Et c'est ce qu'ils appellent proposition d'amendement. Ce n'est pas des propositions d'amendement, c'est carrément un virage. Puisque si ce qu'ils font comme proposition, si on doit les prendre en compte, mais c'est carrément nous remettre au point de départ. C'est incroyable ce qui se passe. Maintenant, c'est ce qui est sûr et certain. C'est la communauté internationale et le représentant de la CEDEAO, de l'Union africaine, Pierre Bouya, a dit tout de suite qu'il se donne les moyens de prendre les sanctions qu'il faut pour, comment dirais-je, ceux qui entravent la paix. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on attend tout ce temps-là. Parce que quand on quittait Alger, Ce qu'ils ont fait, la proposition d'abord qu'ils ont fait à la CMA, n'était pas normal. Tout le monde s'est engagé depuis le début du processus, tout le monde était là. Au moment de signer, à la dernière minute, la CMA se dérobe, prétextant qu'elle a besoin de 2-3 jours pour aller consulter sa base et ensuite paraffer. C'est l'argument avec lequel ils ont quitté. Ils ont pu, comment dirais-je, convaincre la médiation et se dérober. Mais une fois sortis de la salle, ils ont commencé déjà à mettre le truc en doute.
Moi, je pense que s'ils avaient une logique de sortie de crise, de situation de sortie de crise, s'ils ne voulaient pas la guerre, c'est clair qu'ils n'allaient pas agir de la sorte. Parce que le document, quand on lit dans le fond, à fond le document, on voit clairement que c'est plus avantageux pour eux que pour l'État malien.
En tout cas, oui, c'est clair.
Finalement, on se demande si ce n'est pas la guerre qu'ils veulent. Quoi.
Oui, bon, de toutes les façons... Comme je l'ai dit, on est en train de repousser une situation.
Et là, c'est la communauté internationale qui doit vraiment s'impliquer.
Prendre ses responsabilités, voilà. Parce que c'est elle qui joue les arbitres.
Oui, tout à fait.
Alors, Pierre Bouya estime que les partis doivent donc paraffer ce document d'ici la fin du mois de mars. Awa, est-ce que vous êtes optimiste pour ce paraff d'ici la fin du mois par la CEMA?
Je ne suis pas du tout optimiste. Vu les différentes déclarations qu'ils font, et puis ils sont très très forts en matière de communication. Ils ont une excellente stratégie de communication dont manque le gouvernement malien.
Le gouvernement malien,
voilà. Il faut faire très attention.
Ok. Yuba,
oui,
est-ce que vous êtes optimiste d'ici la fin du mois?
Oui, moi je pense que ça va dépendre de l'engagement de la communauté internationale. Et c'est sûr qu'elle a les moyens de faire plier plus que la CMA. C'est clair. En 24 heures, ils signent.
Si
la communauté internationale veut, la CMA va signer demain. C'est clair. Mais
alors,
imaginez, Monsieur Sidibé, même pour organiser leur soi-disant concertation à Kidal, ils n'avaient pas de ressources.
Qui a fourni les ressources?
Ah oui, ils n'avaient pas de ressources.
C'est lamentable
ce qui se passe à Kidal. C'est lamentable. Et c'est dans ces conditions qu'ils veulent créer un État. C'est pas possible. Il va falloir vraiment que les gens arrêtent de divertir, de jouer avec la vie des gens. Quoi. Parce que Kidal, entité Kidal, n'est pas fiable. C'est clair, tout le monde le sait. Et Kidal plus Tombouctou et Gao, ce n'est pas envisageable. Même si aujourd'hui, le gouvernement malien, les Maliens de façon générale disaient, bon, donc Tombouctou, Kidal, nous on libère. Gao, mais c'est la guerre jusqu'à la fin des temps. Jamais. ces communautés-là ne vont accepter. Ce sera la guerre jusqu'à la fin des temps. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et maintenant, tout le problème c'est qui se pose aujourd'hui, ils sont arrivés militairement à prendre des points. Et moi, je me demande s'ils ne cherchent pas à sortir de cette situation. Et j'ai eu beaucoup d'intérêt pour l'intervention du professeur Issandiaye qui dit qu'ils veulent, ils font monter les lanceurs pour pouvoir caser les gens qui sont en armes. Ça, ce n'est pas exclu. Puisque la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui ont les armes. Et il faut faire une lecture un peu historique de ce qui s'est passé.
Puisque les gens oublient que... Des anciens rebelles dans...
Des anciens, c'est qui, les gens qui sont venus de Libye, là. Ça, c'est des gens qui, à la limite, n'ont rien à perdre, quoi. Puisque déjà, ils étaient censés mourir là-bas. Ils sont pas morts.
Donc, ils viennent en martyr.
Voilà. Et donc, ils se retrouvent par là. Et il y a encore des choses à faire.
En parlant d'armes, je pense qu'avant le début de toutes les négociations, ils auraient dû être armés. Tous les groupes armés du Nord auraient dû être désarmés complètement.
Non, il faut être réaliste.
Il faut être réaliste.
Avec la donne, c'est-à-dire qu'avec le fiasco de la visite, ça, ce n'était pas envisageable.
Déjà avec la venue de Serval d'abord. Ensuite, qui est devenu Barkhane, et ensuite l'aménagement. Non, il fallait commencer par les
deux. Non, le laxisme, c'est à ce niveau. Le laxisme, c'est à ce niveau. Ça, on fait avec, puisque tout le monde a compris. Oui. Puisque quand, dans la reconquête même de notre espace, dès lors qu'on a reconquis Tombouctou, Gao, on a à Kidal, le dire non, vous restez ici. Tout le monde a compris qu'il y a quelque chose qui cloche pas.
Alors, la particularité cette année, par rapport aux autres conflits armés au Mali, la particularité cette année, c'est que la donne djihadiste également existe. Comment faire le tri pour d'éventuelles intégrations dans l'armée, Awa?
En tout cas, pour l'intégration dans l'armée, là, ça risque de causer des problèmes parce qu'on en a déjà vu par le passé. On a vu ce que ça a causé. On les intègre et après, ça devient autre chose.
Aujourd'hui, on parle d'une armée ou bien d'une protection autonome attribuée à chaque région. Est-ce que vous pensez que la région de Kidal pourra convenablement gérer sa sécurité?
Ça va être difficile parce que c'est une très grande zone. Ça va être très difficile, extrêmement difficile.
Vous ne savez pas ce qui se trame dans cette histoire-là.
Vous allez nous le dire.
Vous voyez, la CEMA fait même une proposition pour demander la mise en place d'un fonds de garantie pour les régions du Nord. Et ce fonds de garantie, vous savez à combien il évalue? À 40% de notre budget d'État. C'est-à-dire que nous, notre budget d'État, 40%, on va le prendre et le mettre à la disposition de l'Azawad pour qu'il résorbe.
Quel Azawad?
Pour qu'il résorbe leurs 50 ans de retard. En réalité, quand vous prenez cette philosophie, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que le plan, c'est quoi? Pour le moment, nous n'avons pas les moyens d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire l'autonomie et l'indépendance. Ok, jouons le jeu, mais fondons-nous dans les Maliens et tirons
le maximum
pour nous consolider et revenir à la charge. La réalité, c'est ça. Mais cette réalité se bute à une autre réalité qui est la réalité démographique et la réalité de la représentativité.
Le large volet consacré donc au préaccord d'Alger signé entre le gouvernement malien et les groupes armés donc de la plateforme s'achève ici. Nous allons observer quelques secondes de pause avant les deux derniers sujets de cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, notre page Facebook, mais également notre site web www.studiotamani.org où vous pourrez retrouver toutes nos productions, mais également réagir sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réagir donc à ce que vous entendez à travers donc cette émission et bien d'autres. Alors, ce volet est consacré à la vaccination selon le ministère de la Santé. près de 8 millions d'enfants seraient concernés par la campagne nationale de vaccination cette année. Pourquoi la vaccination des enfants doit toujours être l'affaire des partenaires financiers du Mali, Awa?
Ça, c'est une vaste question. D'accord. Alors, la vaccination, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que...
Cette année, c'est 4 milliards de fonds qui vont donc
être investis
dans...
Voilà, dans la vaccination. Je crois que c'est extrêmement important parce qu'il s'agit de la rougeole, qui est une maladie contagieuse, qui, quand elle touche les enfants, ça fait vraiment d'énormes catastrophes. Donc, c'est important que le Mali soit aidé par les partenaires. Et il est aussi important que le gouvernement malien s'implique personnellement, consacre un budget conséquent pour ces séries de ces campagnes de vaccination.
Alors, cette année, on parle d'éradication donc de la rougeole au Mali Yuba. Est-ce que, avec les retards en termes de services sociaux de base, le Mali peut venir à bout donc de la rougeole?
Oui, certainement, je pense, oui, que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est des pandémies du genre de la rougeole sont des maladies très, très dangereuses. Si nous avons les moyens, même avec l'accompagnement des partenaires à les éradiquer, c'est une bonne chose. Mais ce que moi, je n'ai pas compris, il y a vaccination et puis il y a tapis rouge. Bon, vraiment, je suis désolé.
Vous parlez de la cérémonie de lancement.
Oui, c'est des trucs qui sont un peu hors catégorie. On parle de vaccination, de sauver dans les... Quel processus de vaccination, 100% des ressources sont venues de l'extérieur, il y a un tapis rouge. Vraiment, je suis désolé, mais moi je ne comprends pas des choses comme ça.
Vous pensez on que les met... efforts vont ailleurs?
Je ne sais pas, on ne se met pas toujours à notre propre hauteur. Moi je suis désolé. Et ce n'était pas pour le président de la République, pour le nommer, le lieu aussi d'aller se justifier pourquoi il était allé en Allemagne pour le truc du fonds Gavi.
Je pense que c'est important qu'il explique un peu le contexte de.
C'est se justifier
C'est peut-être pour montrer l'implication des partenaires.
Et puis le Mali,
la mobilisation.
C'était parce que. Je pense que le Mali a dans la sous-région, le Mali a un excellent système de santé.
Mon propos n'est pas ça. Mon propos, c'est que le président de la République, à tout bout de champ, se justifie. Non, il faut qu'il arrête de se justifier. C'est lui le président, il prend les décisions, on le suit.
Pensez-vous qu'il est toujours dans la peau de l'opposant?
Moi, je ne sais pas. En tout cas, je remarque qu'à chaque occasion, il répond à la rue, il répond aux rumeurs. Il faut qu'il arrête. C'est le président de la République. Ça dit qu'il a le sort de 14 millions d'individus, donc il faut qu'il se mette au-dessus un peu de la mêlée.
Peut-être que le président de la République entend Youba Konaté ce soir. Alors, revoilà Jires, le nouveau sélectionneur des Aigles footballeur, est de retour. Voici ses impressions hier, juste après la signature de son nouveau contrat qui court jusqu'en 2017. Alain Jires, qui va donc réagir par rapport donc à son contrat avec la FEMAFOOT. La FEMAFOOT qui a donc décidé de reconduire Alain Jires. Alain Jires qui était là avant Casper Zack. Donc Casper Zack qui a été remercié pour mauvais résultats lors de la dernière CAN. Alain Jires qui va donc avoir comme défi de qualifier les Aigles à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde 2018. Si l'élément d'Alain Jires est prêt, nous allons donc partir avec lui. Si c'est pas prêt, nous allons donc commencer à parler de lui ici, dans le studio. Donc, on me fait signe que c'est prêt. Alain Jires, sa réaction après sa signature.
La perspective maintenant de poursuivre l'avancée de l'équipe nationale avec ses objectifs qui ont été définis à travers les compétitions qui se présentent, la CAN et la Coupe du Monde. La référence pour cela, c'est d'être à chaque fois présent lors d'une CAN. Ça, c'est la base. À partir de là, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. C'est la référence même et vous prenez tous les pays qui vont au bout de la compétition. Ce n'est pas des pays qui arrivent par hasard. C'est des pays qui sont toujours présents dans cette compétition. Vis-à-vis de cet objectif de qualification pour une Coupe du Monde. Et il ne faut pas avoir de complexe de se dire que ça devient réalisable.
Alors, Awa, êtes-vous foot?
Oui.
Alors, réaction après cette signature?
Oui, je trouve que c'est ce soir... D'abord, je salue la venue de Jires, parce que c'est un homme que j'apprécie beaucoup pour ses qualités, ses talents. Et je trouve vraiment dommage qu'on l'ait libéré il y a 3 ans, voilà, où il a amené le Mali à la troisième position de la CAN. Et je pense que ça aurait été bien que l'équipe nationale, les ailes, continue avec lui, au moins pendant 5 ans, comme ça, pour qu'il fasse ses preuves encore. Et il est parti, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Donc je pense que ça casse un peu le rythme de l'équipe et ce n'est pas du tout bon pour une équipe nationale. Voilà. Donc,
alors Yuba, Jires 1 est parti la tête haute. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que son retour est justifié?
Et déjà, moi, je ne suis pas vraiment foot, quoi. Foot, moi, je ne le suis pas. Mais déjà, si moi, j'étais responsable de ma foot, de la FEMA foot, je n'aurais pas engagé Jires.
Pourquoi?
Je vais voir ailleurs.
Où?
J'ai cru comprendre qu'il y avait, comment dirais-je, toute une foule de candidatures. J'allais voir ailleurs, pas Jires.
Si malgré ses qualités?
Non. Si j'étais
malgré Jires, le fait que Jires ait qualifié l'équipe nationale... et amener l'équipe nationale jusqu'à la troisième place.
C'est ça le problème, justement.
Pourquoi?
Parce qu'on pense que c'est Jires qui avait amené l'équipe nationale à la troisième place du club.
Aucun entraîneur n'a pu dépasser ce cap.
Justement, c'est pour ça justement que moi j'allais aller voir ailleurs. Il y avait d'autres candidatures.
Peut-être au Mali?
Non. Pas forcément.
Je pense que le fait qu'il soit venu, que... parce que déjà il connaît l'équipe,
ouais,
il connaît les joueurs et tout.
Le problème,
donc
c'est
ça
quoi?
Va être un plus.
Moi, je suis un peu même truc que ça dit qu'à la limite un peu pour les trucs de les entraîneurs même expatriés déjà je suis contre. Ça n'engage que moi.
Oui, aujourd'hui mais... il y a un défi sans entraîneurs expatriés, les binationaux sont réticents à l'idée de venir jouer au Mali.
Bon, ça c'est une autre lecture, mais moi ça dit que j'ai un problème.
Quoi?
C'est pas au niveau du foot seulement. Moi, je veux vraiment qu'on commence à faire les
qu'on
choses.
Qu'on valorise.
Non, qu'on commence à faire les choses de nous-mêmes d'abord. C'est pas. On peut trébucher, truc. Après, peut-être que ça va marcher. Mais dès lors, qu'on continue quand
mais
même.
Mais faites des propositions,
Yuba. Moi, ça dit que pour un truc comme le football, ça dit, pour moi, c'est tellement élémentaire que pour ça aussi, on doit aller faire appel à un expatrié. Moi, vraiment. Bon, si on doit faire appel à un expatrié. Pas forcément un blanc.
Alors, parlons sous. Si 16 millions étaient donnés aux prédécesseurs de Jires, on ignore le montant du salaire d'Alain Jires.
Et ça, je ne le savais même pas.
La fédération annonce que c'est nettement inférieur à son prédécesseur. Comment peut-on spéculer aujourd'hui sur le salaire d'Alain Jires?
Alors, le salaire, ça, c'est un réel problème. j'ai pas compris.
C'est des sommes faramineuses qui sont octroyées à ces entraîneurs. Oui. 16 millions pour Casper Zack. La fédération émet des mystères autour de
Jires. Bon, je crois que c'est pas aussi faramineux que ça dans le monde du football. C'est des salaires qui sont mérités.
Même pour les Maliens?
Même pour les Maliens, bien sûr. Okay. C'est... En fait, que ce soit malien ou expatrié, je vois que tu as un problème, Yuba, avec
expatriés. C'est vraiment
mais,
ça, quoi.
Mais je crois que c'est extrêmement important déjà d'assurer la pérennité. Mm-hmm. Quand un entraîneur est là, même s'il amène cette équipe à la finale et que cette équipe prend la coupe, il faut que l'entraîneur, il faut pas qu'on le remercie après ou qu'il parte. Il faut que l'entraîneur reste pour pouvoir mieux structurer cette équipe-là, afin qu'au fur et à mesure, il y ait vraiment une base. Voilà,
je suis d'accord avec Awa, mais si ça pouvait être un national. C'est-à-dire que dans l'histoire de la CAN, il y a quand même des entraîneurs africains qui ont eu à prendre la coupe. Voilà.
Donc, Stéphane Keshi était
voilà, moi je veux par exemple un Stéphane Keshi, un Nigérien. Moi, je vraiment quoi, j'ai un problème avec... Puisque je pense que...
Comme l'Égyptien à Santiago.
Voilà. Et comment dirais-je, la première coupe de la Côte d'Ivoire. Yo Martial. Voilà. Moi, je pense que...
Alors, nous allons quitter le monde des sélectionneurs, Yuba. Nous allons donc, dans la foulée, à l'équipe nationale junior qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Une appréciation, Yuba?
Oui, ça, je pense que c'est une bonne chose. Et déjà,
malgré la défaite contre le Sénégal? Qui reste
et une erreur d'arbitrage quand même, quoi. Il faut le signaler. C'est le foot, c'est les règles du
pour
foot.
Pour une fois, vous vous intéressez au foot?
Oui, ça, c'est des trucs que je vois au passage, quoi, vraiment. Et quand c'est le Mali qui joue, c'est pas forcément une question de foot, c'est une question de nation. Donc, je suis un peu chauvin aussi, donc je suis obligé de m'y intéresser. Ouais, c'est dans le résumé sur le RTM que j'ai vu que, puisque Moi, j'étais à la porte, j'écoutais le truc à côté des camarades. Mmh. Il y a les journalistes, des reporters qui font le truc en bambara, ils spéculaient un peu sur le truc. Mais quand j'ai vu le résumé à la télé, ça fait partie des règles du sport, mais on a été victime.
Mmh. Ouais. Oui, je crois qu'on a été victime, mais si on avait... Je ne les fustige pas, je les félicite d'être arrivés jusqu'en demi-finale.
Mais si qualifiés pour la Coupe du Monde.
Qualifiés pour la Coupe du Monde.
Je suis carrément d'accord avec Awa sur ce point.
Si c'était donné à fond encore. Ouais.
Surtout que le premier et le deuxième point, le but, vraiment, moi, je pense que ce n'était pas le but.
Si c'était donné encore plus, je crois qu'on allait gagner. Et puis,
Et ce que j'ai vu dans le résumé, c'est le premier but, c'est le gardien qui repousse le ballon, juste quoi. Et c'est un ballon qu'il pouvait prendre.
Cette erreur d'arbitrage-là, si on avait marqué d'autres buts, ça n'allait pas poser de problème.
Ça allait poser de problème parce que si on avait marqué, si le but avait été comptabilisé, on tue le match.
Non, pas ce but-là.
Ouais. Si le ballon avait été au fond.
Qui n'avait rien à voir avec ça.
Au fond, comment ça?
Jusqu'au filet.
Pas forcément. Laisse affranchir la ligne
de but. Non, même ce but-là, même ce but qui a été refusé par l'arbitre, s'il n'y avait pas que ça, s'il y avait d'autres buts qu'ils avaient pu marquer.
Ça c'est un autre débat, mais comme celui-là était au fond, ça franchit quand même la ligne de but. Et c'est l'appréciation seulement de l'arbitre qui fait que ça n'a pas été bon.
Justement. Si,
parce que là, ça tue le match. On est à 5-6 minutes de la fin du match, ça tue le match.
Mais si avant ça,
et c'est une minute après
si avant ça, on avait marqué plein d'autres buts.
Alors, les erreurs d'arbitrage lors de la CAN des seniors s'est fait entendre. Également, cette fois-ci, toujours des litiges autour des pays organisateurs. Est-ce que la CAF doit revoir sa copie, Yuba?
Non, moi, je ne pense pas forcément. C'est-à-dire que, comme c'est, je ne sais pas comment les mécanismes fonctionnent. C'est-à-dire que si c'est des arrangements et des trucs, c'est très grave. Mais si c'est vraiment parce que l'homme a apprécié, sur son appréciation, vraiment, c'est humain. On ne peut rien dire. Maintenant, si après on se rend compte qu'il y a des montages derrière, que voilà, là c'était très grave, il va falloir que changer, parce que là ça peut créer énormément de problèmes. Il ne faudrait pas que les gens au moment, c'est-à-dire que ceux qui ne méritent pas de victoire soient.
Comme un coup de sifflet final, Petting Diarra vient de siffler donc la fin de cette émission, de ce match qui débattait de trois thèmes. Le préaccord d'Alger, un large volet a été consacré à cette actualité. Nous avons également parlé de vaccination des enfants, la campagne nationale de vaccination qui a été lancée hier par Ibrahim Boubacar Keïta, qui va donc concerner plus de 8 millions d'enfants et coûtera près de 4 milliards de francs CFA. Et nous avons également parler de sport avec l'arrivée du nouvel entraîneur Alain Giresse. Alain Giresse qui retrouve les Aigles après une première prestation lors de la CAN Angola. Alors, c'est donc la fin de cette émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. Nos invités étaient Yuba Konaté de Zenith Balé et Awa Simega de kunafoni.com. Madame Togola était donc avec nous aujourd'hui et nous étions la technique était assurée par Petting Diarra à la régie vidéo. Il y avait Mamadou Ouattara, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons bon week-end, à très bientôt et bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les antennes de notre radio partenaire.
Studio Tamani, on est chez Angala Céline Labenin Koso. Au Cambé Chini, nous radio sur que nous sommes.
Studio Tamani, go arfondo gui, suba irgechor kubai ira radio igola gandi.
Studio Tamani, injawan al khairajen yaramas nana, nekfi wana sihara shika. فالراديو تنتظر هنغد هلين
استيديو تماني سكرا بهدي بإنالوم أو أنا إجام يو إنجي جانغو نجوكو إهداد راديو نجي ندوري دوجي أمين دي أنجاراما